Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Les droits des enfants demeurent fortement menacés dans la région de Beni. Alerte du bureau Genre, Famille et Enfants de la place. Révélation faite en marge de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre. Malgré l'insécurité, les acteurs de la protection s'organisent pour préserver l'essentiel, affirme la responsable du bureau Genre, Famille et Enfants de Beni. À Kananga, 135 nouveaux magistrats militaires ont prêté serment hier jeudi. Il s'agit de la 20e session spéciale de l'école de formation des officiers EFO. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Et puis, au Maniema, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, multiplie des rencontres avec les femmes leaders politiques et les jeunes de la région. Objectif, les préparer aux prochaines échéances électorales. Pour en parler, nous recevons Béatrice Mukombe, secrétaire générale du CAFCO Maniema. Madame, Messieurs, bonjour. La Journée internationale des droits de l'enfant et anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'était hier 20 novembre à Beni, au Nord Kivu. Cette date est célébrée cette année dans un contexte particulièrement préoccupant pour les 36 ans de ce texte fondamental. Le bureau Genre, Famille et Enfants de Beni tire la sonnette d'alarme. Les droits des enfants demeurent fortement menacés dans la région. Malgré l'insécurité et les nombreux défis sociaux, les acteurs de la protection s'organisent pour préserver l'essentiel. On écoute à ce sujet la responsable du bureau Genre, Famille et Enfants de Beni, Ruth Sabouni, au micro de Marc Marofimbo.
Le tableau est sombre parce que, vu le contexte que nous vivons, il y a d'abord le déplacement de la population qui ne permet pas l'effectivité du respect des droits des enfants. Parce que dans ces déplacements, les enfants sont violés, les enfants sont économiquement exploités, les enfants sont abandonnés. Tel est le cas de la ville de Beni où nous avons plusieurs enfants non accompagnés. Mais aussi, à part ça, la province du Nord Kivu elle-même éprouve le grand nombre des taux de malnutrition, mais aussi le non-accès aux services de base peut être bénéfique aux enfants ne sont pas disponibles, tels que la santé, la prise en charge psychologique des enfants. Mais qu'à cela ne tienne, les acteurs, les partenaires aussi de la MONUSCO, ils sont là. C'est pourquoi nous essayons tant soit peu de nous mettre ensemble pour voir comment on peut créer des situations pour compromettre ces différentes difficultés qu'éprouvent les enfants.
Toujours à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le Bureau pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé, BVS, lance officiellement un projet de soutien aux adolescentes associées aux groupes armés et aux survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ce projet de 2 ans couvre les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Des précisions avec Jean Kassami.
Ce centre servira de tremplin aux jeunes filles qui choisissent d'abandonner l'utilisation des armes pour s'adonner à des activités économiquement rentables pour les unes et à choisir la réintégration du circuit éducatif pour les autres. Le projet est financé par une ONG allemande, RET, Germanie, et Kuto, un de ses représentants en RDC, Pascal Tupendane.
RET, Germanie est présent dans 12 pays à travers le monde et a déjà apporté assistance à plus de 400 000 bénéficiaires directs. Le nouveau projet va cibler les enfants, les familles d'accueil et les familles biologiques.
Le centre de transit et d'orientation BVS pour filles à Bukavu compte 73 adolescentes sorties des divers groupes armés, dont 7 filles mères et 14 actuellement enceintes. Le cycle de transit au CTO dure de 3 à 6 mois. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, mieux outiller les acteurs locaux pour désamorcer les conflits communautaires, c'est l'objectif d'un atelier de 3 jours clôturé mercredi à Goma, au Nord Kivu. 30 acteurs membres des organisations actives dans la recherche de la paix ont été formés par l'ONG Africa Reconciled avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Ce projet vise à former à terme 300 hommes et femmes à Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Mais concrètement, quel impact cette formation a sur le travail quotidien de ces artisans de la paix, Rosalie Zawadi.
Le travail des organisations actives dans la construction de la paix est continu dans la ville de Goma et les formations comme celle-ci viennent appuyer leur engagement pour plus de résultats, explique Jospin Amani du Réseau national des organisations des jeunes et enfants pour la consolidation de la paix.
Il y a trop de conflits au niveau de la communauté et c'est sur ça que la session a porté. C'est la prévention des conflits, la résolution des conflits au niveau communautaire, ça a renforcé notre manière de faire à Goma.
Même satisfaction pour Gladys Mukungia, membre du collectif des organisations féminines pour le développement. Elle salue particulièrement la richesse des échanges d'expériences entre les différents acteurs des pays présents.
Ça a été pour nous une belle expérience parce que les thématiques abordées au cours de cette session sont pour nous essentielles. Du fait que nous travaillons directement dans des communautés avec des contextes fragiles et nous travaillons également avec ces membres de communautés qui vivent par moments dans des tensions permanentes.
Le but de ces projets est d'aider les acteurs des pays de Goma à harmoniser leurs interventions afin d'avoir des communautés engagées dans la prévention et lorsque des conflits surviennent, qu'ils soient réglés pacifiquement, conclut Rifine Zindula de l'organisation Africa Reconciled. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Kananga, l'Académie militaire a organisé hier la cérémonie de prestation de serment des lauréats de la 20e session spéciale. C'était sur le site de l'école de formation des officiers EFO. Cette promotion est essentiellement composée de 135 nouveaux magistrats militaires appelés à renforcer la chaîne de justice au sein des forces armées. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Reportage de André Katende.
Ils sont au nombre des 135 qui rejoignent les rangs des sous-lieutenants pour servir sous les drapeaux, cela après 9 mois de formation militaire. Ces sous-officiers sont également magistrats. Ils disent avoir été bien formés et promettent de rendre des loyaux services à l'État congolais. C'est ce que nous dit Héritier Katenda, l'un d'eux.
Nous avons suivi une formation pendant 9 mois. C'était une formation excellente. Nous nous sommes engagés dans l'armée pour servir dignement cette armée et jusqu'au sacrifice suprême.
Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, fait savoir que la formation suivie par ses lauréats rentre dans le cadre du renforcement de l'armée, surtout pendant cette période où le pays est agressé par plusieurs groupes armés, dont la FCM-23. Guy Kabumbuma Dianvita les a invités à mettre en pratique les notions apprises pendant leur formation et de respecter leur serment.
Votre formation s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Vos formateurs vous ont forgé l'esprit de corps et l'exigence de la loyauté ainsi que de la fidélité.
Le patron de la Défense nationale les a également invités à travailler dans l'impartialité dans leur fonction de magistrat. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, la transparence et la traçabilité des minerais critiques de l'Est de la RDC au cœur de la mission de la Première ministre à Genève en Suisse, Judith Suminwa ainsi que les ministres de la Justice, des Mines et de la Communication qui l'accompagnent doivent tabler sur cette question des matières premières car elle devra renforcer la crédibilité de la RDC dans la lutte contre la transparence minière. Explication avec Blaise Makassinandes.
La première ministre Judith Suminwa est arrivée dans la nuit de mercredi dans la capitale de la Suisse. Au programme, une table ronde au Centre pour les dialogues humanitaires avec les acheteurs internationaux et partenaires. Une conférence publique est également prévue sur un approvisionnement responsable au service de la paix et du développement. Et enfin, une rencontre est attendue avec le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et d'autres échanges avec les entreprises suisses. Une réunion de haut niveau s'est tenue ce jeudi au Centre pour les dialogues humanitaires Henri Dunant à Genève, en présence des représentants des entreprises minières mondiales, des acheteurs finaux de minerais, ainsi que des acteurs impliqués dans les filières d'approvisionnement en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre de la RDC a conduit des échanges avec des investisseurs internationaux et les partenaires du développement. L'objectif central de cette rencontre était de co-concevoir un système renforcé de traçabilité des minerais, de la mine jusqu'à l'exportation, afin de mettre un terme à la contrebande des minerais dits 3T vers les pays voisins.
Par ailleurs, plus de 7 entreprises minières opèrent dans l'illégalité dans la province de la Tchopo. Elles s'adonnent à l'exploitation minière alors qu'elles ne détiennent que des permis de recherche. C'est ce que révèle l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion. Et Patrice Emery Lumumba pour le développement communautaire, la défense et la promotion des droits de l'homme. Ces deux ONG ont animé un point de presse mercredi au cours duquel elles ont rendu public les résultats de leur étude. Cette dernière a été menée entre août et septembre dernier dans les territoires de Bafouassende, Banalia, Bassoko et Ubundu. Jacques Moukonkole.
En réalisant cette enquête, les deux ONG ont voulu fournir une vision globale des activités minières, des acteurs présents dans ces quatre territoires, ainsi que l'impact aussi bien économique, social qu'environnemental sur les communautés locales. Selon Simplice Kapipa, coordonnateur de cette étude, l'exploitation minière est assurée par des coopératives partiellement organisées ou tout simplement illégales. Par ailleurs, il relève des caractéristiques communes à ces quatre entités, notamment la participation active des femmes et des enfants dans l'exploitation minière, l'implication des acteurs étrangers, spécialement les Chinois, ainsi que la faible application des obligations fiscales. Il déplore également l'absence de transparence, de redevabilité, de traçabilité des minerais, ainsi que le parrainage des acteurs politiques, des sujets étrangers et la fraude minière. En vue de remettre de l'ordre dans ce secteur, Simplice Kapipa fait quelques recommandations.
De renforcer les contrôles parlementaires sur la gestion des permis miniers, la procédure d'acquisition au cadastre minier, de faire les suivis permanents et d'exiger l'effectivité de la loi sans complaisance, à la chef du gouvernement d'assurer la coordination entre les ministères des mines, le ministère de l'environnement, le ministère de l'intérieur et du travail pour une gestion intégrée des ressources naturelles dans la province de la Tchopo.
Dans le cadre du suivi de ces recommandations, il compte saisir le parquet général afin que tous ceux qui violent la loi minière soient poursuivis en justice. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Maniema, début mercredi à l'hôpital général de référence de Kindu de la campagne de réparation gratuite des fistules vésico-vaginales. Cette campagne de 10 jours vise 70 femmes sur toute l'étendue de la province. Au deuxième jour de cette campagne hier, le médecin directeur de l'hôpital provincial a rassuré sur Radio Capi que les interventions se déroulent bien et que déjà une dizaine de femmes ont été soignées. Docteur Bouré Dissenga est au micro de Florence Kizalunga.
Les interventions ont commencé depuis ce mercredi. Et comme vous le savez, c'est notre ami Altemedis qui a une clinique qui se charge de l'esthétique et de réparation des fistules. Alors, Altemedis est venu en appui à l'hôpital général pour la prise en charge de ces malades qui ont tant souffert avec ces problèmes de fistules vésico-vaginales. Cette prise en charge, elle est vraiment globale. C'est-à-dire que les patientes arrivent, elles ne payent aucun frais et on les reçoit dès la consultation jusqu'à l'hospitalisation, en passant par les interventions. Les médicaments sont aussi offerts gratuitement. Et en dehors de ça, il y a une restauration qui est assurée pour nos patientes. Vous savez, la fistule, c'est une maladie que la femme estime que c'est une maladie honteuse parce que vous imaginez quand une dame doit être souillée des urines, c'est une maladie qui met un peu quelqu'un hors la société. Alors, elles ont parfois honte de s'afficher. C'est comme ça que nous les appelons, de venir massivement parce que l'effectif aussi est limité au regard des charges que ces interventions peuvent régorger.
Autre nouvelle, à Kinshasa, depuis mercredi, la police a renforcé le contrôle des documents de visite technique des véhicules. Conséquence, les automobilistes affluent vers les différents centres agréés pour se mettre en règle, mais dans plusieurs de ces centres, les usagers doivent patienter durant des longues heures en raison notamment des problèmes techniques et de la faible capacité d'accueil des installations. Au centre de contrôle technique de l'INPP, l'Institut National de Préparation Professionnelle, les équipes vont parfois au-delà des heures normales de service pour tenter de répondre à la demande, constat de Lukin Zaou dans ce reportage.
Dans ces centres de contrôle de la commune délimitée, des véhicules sont alignés selon l'ordre d'arrivée pour pouvoir passer au contrôle. À notre descente, on pouvait compter plus de véhicules personnels que des transports en commun. Des chauffeurs assis sur des chaises en train d'attendre impatiemment leur tour. Certains expriment déjà leur impatience à travers leur visage épuisé et des mains sur des joues. En cause, la lenteur dans les traitements que certains attribuent à la coupure du courant électrique. Une situation qui exaspère Yannick Bongumba.
La difficulté que s'il n'y a pas de courant, donc cela veut dire tout est bloqué. Si on a de courant, donc tout ça marche très bien. Ça fait déjà pratiquement 20 ou 30 minutes déjà. Il n'y a pas de courant. On est toujours à attendre, donc on attend jusqu'à ce que le courant ça revienne.
La faible capacité d'accueil de ces centres limite également la capacité de pouvoir rapidement recevoir les récurrents du contrôle technique, explique Aaron Miziamo, le sous-directeur de ces centres.
Maintenant, pratiquement tout le monde veut passer au contrôle technique automobile. Notre capacité d'accueil aussi, des fois ça pose problème. Tout le monde veut passer en premier lieu. D'autres veulent aussi que nous puissions aller au-delà même des heures de service. Mais nous cherchons déjà des voies et moyens pour pallier à toutes ces difficultés.
Sur place, les usagers des véhicules rencontrés plaident pour l'accélération du processus de contrôle.
Actualité internationale.
Le parquet néerlandais a requis mercredi une peine de 20 ans de prison à l'encontre d'un suspect érythréen présenté comme le cerveau d'un réseau de traite d'êtres humains ayant torturé des réfugiés et migrants africains dans des centres de détention situés en Libye et en Érythrée. Selon l'accusation, Emmanuel Walid, aussi connu sous le nom de Tewed Gotom, 42 ans, dirigeait un vaste réseau qui organisait une route migratoire vers l'Europe via la Libye. L'enquête qui porte sur la période 2014-2019 estime que des milliers de personnes ont été détenues dans des conditions déshumanisantes afin d'extorquer des rançons à leurs familles.
L'invité.
Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO renforce l'engagement politique des femmes et des jeunes pour faire émerger un nouveau leadership à la base. Nous sommes dans le Maniema. L'organisation multiplie les rencontres avec des femmes leaders politiques et des jeunes de la région afin de les préparer notamment aux prochaines échéances électorales. Pour en parler, nous recevons Béatrice Mukombe, secrétaire générale du CAFCO Maniema. Elle est avec Florence Kizalunga.
Madame Béatrice Mukombe, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Qu'est-ce qui justifie ces différentes rencontres de CAFCO avec les femmes politiques leaders du Maniema?
Oui Madame, comme nous le savons tous, premièrement en RDC, la classe politique est majoritairement composée par les hommes et des vieilles personnes. Les femmes sont minoritaires et les jeunes aussi de même. C'est pourquoi CAFCO organise ses assises pour donner des stratégies aux femmes et aux jeunes qui ont des ambitions politiques à bien se préparer pour les élections de 2028. L'objectif de ces assises, c'est de promouvoir une participation politique éclairée, qualitative et quantitative des femmes aux élections de 2028. À amener les femmes à convertir leur majorité numérique en majorité décisionnelle à l'horizon 2028. Oui, comme nous le voyons ici chez nous, au Maniema, l'Assemblée provinciale du Maniema est composé que des hommes. Il n'y a aucune femme qui s'est fait élire comme députée. Tout comme au gouvernement provincial, aucune femme n'a été nommée ministre.
Qu'est-ce qui fait que les femmes ne soient pas élues au Maniema ou bien ne soient pas nommées au gouvernement provincial?
Premièrement, ici chez nous, il y a les us et coutumes qui ne permettaient pas à la femme de prendre le leadership. On disait toujours à la femme que sa place c'est à la cuisine. Elle n'a pas de place ni au boulot, ni partout, mais sa place était réservée à la cuisine. C'est pourquoi la femme connaît ce retard-là. La femme du Maniema est en retard. Elle n'était pas leader, mais elle s'efforce maintenant à contourner ses défis pour se faire leader, pour se faire élire. Un autre problème, ici chez nous au Maniema, on ne vote pas pour le leadership, mais on vote plutôt pour le matériel. Or, on sait qu'il y a la pauvreté qui règne ici chez nous, et les femmes aussi en sont victimes. Les femmes n'ont pas de moyens financiers pour trouver des matériels pour se faire élire aux élections qui se sont déjà déroulées.
Alors, qu'est-ce que CAFCO fait pour aider la femme du Maniema à contourner tous ces défis?
Oui, madame, comme nous le savons bien, parmi ces défis-là que nous avons énumérés, il y a aussi un manque de connaissances. La femme n'est pas informée sur le processus électoral, elle n'est pas informée sur les enjeux politiques de la République. C'est pourquoi CAFCO organise certaines activités dans le cadre de renforcement des capacités sur le processus électoral, parce que la femme ne peut pas s'engager dans le processus électoral sans pour autant connaître ce qui se passe, ce qui se fait. Et en plus, CAFCO pousse aussi les femmes à commencer déjà à travailler, parce qu'un travail sans planification qualifications aboutit toujours à un échec. Les femmes qui ont des ambitions politiques et les jeunes, nous les poussons déjà à commencer à planifier leurs activités, à travailler déjà pour mobiliser les fonds. Parce qu'ils ne battront pas campagne, pas seulement avec les stratégies, mais avec aussi les moyens financiers. C'est pourquoi nous les poussons déjà à se préparer à conséquence pour les élections à venir.
Bien avant, vous avez dit que la femme n'est pas économiquement riche. Comment est-ce qu'elle va mobiliser ces fonds? Est-ce que vous, CAFCO, vous n'allez pas accompagner les femmes dans des plaidoyers chez le partenaire pour qu'on puisse aussi appuyer les femmes?
Oui, premièrement, comme nous les accompagnons déjà à monter les stratégies, à se préparer bien avant, CAFCO aussi à ses partenaires. CAFCO va plaider à ses partenaires pour voir comment à ce moment-là, on peut aussi les accompagner, même avec ne fût-ce qu'un petit rien, pour leur donner du courage d'aller de l'avant.
Pourquoi vous vous occupez seulement des femmes de Kindu alors que les femmes politiques, les femmes leaders sont aussi dans les territoires? Que comptez-vous faire avec celles-là qui sont à l'intérieur?
Oui, madame, tout dépend des moyens et des planifications. Nous allons voir avec notre partenaire OSA, anciennement appelé OSISA, nous allons plaider pour les femmes qui sont dans les territoires, comment nous pouvons les atteindre et les encadrer pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes activités que les femmes qui sont dans la ville de Kindu. Mais entre-temps, nous demandons aux femmes qui bénéficient de ce renforcement de capacités de ne pas garder l'information pour elles-mêmes, mais de partager avec les autres qui sont dans les différents territoires de notre province.
Madame Béatrice Mukombe, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.